France Inter.
Eh ben, mon Dieu, la boxe, vous savez, est un sport comme tous les autres sports où il faut beaucoup de volonté, beaucoup d'initiative, beaucoup de courage.
Histoire 2.
Et, mon Dieu, ce n'est pas malheureusement à la portée de tous les athlètes. Car il y a des athlètes qui savent souffrir et d'autres qui ne savent pas. Si vous ne savez pas souffrir, il ne faut pas faire de la boxe.
Patrick Boucheron.
Parce que vous souffrirez, mais très 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 fort.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il a souffert, le grand Georges, il a souffert sur les rings, mais il a aussi triomphé. 88 victoires pour 14 défaites, Georges Carpentier est le premier Français champion du monde en 1920. C'est pourtant sa défaite contre Jack Dempsey l'année suivante qui le fait entrer dans la légende. Celui dont on admirait le jeu de jambes se faisant photographier haut sur ses appuis, sur la pointe des pieds, c'est très exactement dans cette posture que l'on figure les pugilistes sur les vases grecs. Voici Pollux, par exemple, qui s'esquive sous la plume légère du poète épique latin Valerius Flaccus dans les Argonautiques, toujours effleurant sur la pointe des pieds la surface poudreuse du sol. Si nous montons sur le ring aujourd'hui, ce n'est pas pour évoquer l'histoire des boxeurs de l'Antiquité, mais depuis l'Antiquité. Je veux dire, depuis ces temps anciens où les hommes, en fermant leurs poings, apprirent à user de la seule arme du corps humain, et l'empereur Marc Aurèle le disait très bien. Il faut, dans l'emploi des principes, ressembler au pugiliste, non au gladiateur. Celui-ci n'a qu'à lâcher l'épée dont il se sert et il est tué. L'autre dispose toujours de sa main. Il lui suffit de serrer le poing. C'est depuis ces temps anciens que l'on va parler aujourd'hui de gloire, de guerre, de violence, de spectacle. À point fermé, une histoire de la boxe antique, tel est le titre du livre de Jean-Manuel Roubineau que nous recevons aujourd'hui et qui sera rejoint dans la seconde partie de l'émission par le sociétaire du jour Paulin Ismar et par Loïc Artiaga, biographe d'un héros imaginaire de l'Amérique blanche et virile, Rocky Balboa. C'est maintenant dans Histoire 2. Jean-Manuel Roubineau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Rennes 2, vous êtes historien des cités grecques sous l'Antiquité, vous êtes fait une spécialité des portraits de cogneurs. Vous avez écrit en 2016 une biographie du plus gros palmarès de l'olympisme antique, le lutteur Milon de Crotone, puis en 2020, celle d'un philosophe qui lui non plus ne retenait pas ses coups, Diogène, qui était rompu à la pratique du pugilat. Et aujourd'hui, vous publiez, je l'ai dit, toujours au PUF, cette superbe histoire de la boxe antique qui est, je dirais, le portrait collectif des boxeurs depuis l'Antiquité. Mais voilà, c'est comme dans certains tableaux de la Renaissance, d'une certaine manière, le peintre est dans le tableau, vous aussi, vous êtes sur le ring. Il faut faire de la boxe pour écrire sur les boxeurs?
Alors, j'en suis pas convaincu. Enfin, je pense que ça peut aider pour identifier les questions qu'on veut poser à la documentation et puis peut-être pour analyser plus simplement les images de boxe qui sont parvenues jusqu'à nous, notamment les images sur vase en particulier. Mais pour le reste, j'aurais tendance à dire que je crois qu'on n'est pas forcé d'être familier initialement avec un objet pour se pencher dessus. Alors il se trouve en l'occurrence que je le suis, puisque j'ai pratiqué la boxe pied-point pendant une vingtaine d'années, mais je crois qu'un non-boxeur aurait aussi pu mener à bien cette recherche.
Oui, mais elle aurait été différente sans doute, parce que la vôtre, Jean-Manuel Roubineau, c'est vraiment une histoire totale de la boxe, des boxeurs, qui est au plus près des corps, des blessures, des mauvais coups, de la peur. Moi, je trouve ça extraordinaire comment ce livre nous rapproche de ces athlètes. On est avec eux, vous les décrivez, lorsqu'ils s'enduisent le corps d'huile pour s'empoussiérer. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? À quoi ça sert la poussière?
Pourquoi est-ce qu'on met de la poussière? Pour une série de raison, ça protège. D'abord, la poussière arrive dans un deuxième temps. Après s'être dénudé, on soigne le corps avec de l'huile d'olive, ce qui a aussi fonction de massage. Et puis, dans un deuxième temps, on s'empoussière. Alors, dans la plupart des sports, pas dans tous, mais donc on projette sur son corps de la poussière qui colle instantanément au corps sous l'effet de l'huile et qui vise notamment à protéger le corps du vent, du soleil aussi, éventuellement du froid pendant certaines périodes de l'année. Et puis, secondairement, cette couche d'huile et de poussière a pour objectif de ralentir la dissipation de l'énergie. C'est pensé comme une forme de coque qui permet à l'athlète de conserver le plus longtemps possible l'énergie dans le corps.
On le voit bien dans les nombreuses images, elles sont magnifiques. Vous avez parlé des vases, il y en a plus de 300, mais il y a aussi de la statuaire, celle qui nous accueille sur la couverture de votre livre. C'est le fameux pugiliste des des Thermes, superbe sculpture de bronze du IVe siècle, et on voit un visage marqué par les coups, les cicatrices, les oreilles abîmées, mâchées.
Oui, c'est une statue qui figure de manière très fine les conséquences de la pratique du pugilat, essentiellement au niveau du visage. Il y a quelques coupures sur le reste du corps, mais en nombre très limité. Mais le visage est littéralement couturé de cicatrices, le nez est brisé, la bouche est tuméfiée. Et c'est un choix délibéré du sculpteur, je le souligne, parce que il y a une technique tout à fait particulière qui a été mise en œuvre pour faire apparaître davantage les cicatrices. Ça consistait, alors que la statue avait déjà été fondue et refroidissée, à laisser perler des gouttelettes de cuivre rouge, de manière à restituer sur la statue la différence de couleur entre les cicatrices et le reste de la peau. Autrement dit, ces cicatrices, elles ont un message symbolique. Elles véhiculent un message symbolique, ce ne sont pas simplement des éléments qui témoignent des blessures, mais elles indiquent aussi, d'une certaine manière, la valeur, la vertu du boxeur et sa résistance à la souffrance.
C'est ça. Et votre choix d'historien, c'est de mettre en regard ce visage avec la description que Jack London en fait dans sa superbe nouvelle, Le Steak, d'un boxeur finissant, où l'on lit le trait le plus animal chez lui, c'était ses yeux, des yeux assoupis comme ceux d'un lion. Et c'est là votre méthode, Jean-Manuel Roux. En fait, la confrontation avec la boxe contemporaine, avec votre pratique ou votre science de cet art, ce qui fait effectivement, je l'ai dit, de votre livre, un livre que, sur la boxe depuis l'Antiquité, et donc on compare, par exemple, parlons encore des images, la nôtre, enfin dans l'imaginaire, je dirais le summum, vous le dites, hein, d'un match de boxe, c'est le chaos. Et il n'y a pas de chaos dans la boxe antique. Au fond, ça se termine pas comme ça. Ça se termine par un doigt levé comme une supplication.
Oui, il y a très peu de cas de chaos ou de perte de connaissance qui sont documentés dans les sources anciennes. Effectivement, les combats de boxe s'achèvent par l'abandon de l'un des deux protagonistes. Autrement dit, on a des conclusions qui sont nettes et des résultats qui ne sont pas discutés ou contestés. Et oui. C'est peut-être une des grandes différences entre la boxe antique et la boxe moderne, parce que ceux qui sont familiers, je dirais, des compétitions et des galas de boxe savent qu'il y a un nombre très élevé de combats qui s'achèvent sur décision des juges de table, et que ces décisions des juges sont très souvent contestées. C'est une des raisons pour lesquelles on peut opposer le caractère de sport imparfait de la boxe aujourd'hui, qui est un sport qui est fondé en partie sur la subjectivité des juges, au caractère de sport parfait, pour reprendre le vocabulaire de Paul Lyonnais, oui, de la boxe antique, où les résultats sont nets.
Il y a une autre différence d'ailleurs, c'est que la boxe moderne, qui naît, on va dire, dans l'Angleterre des années 1860, elle naît quand on commence à distinguer les combattants selon leur poids. Et il n'y a rien de tel dans l'Antiquité. Globalement, les lutteurs sont des athlètes lourds, contrairement aux coureurs qui sont légers. Mais on peut, selon les statures et les styles, ils peuvent s'affronter. C'est ce que vous appelez justement l'effet Carpentier, hein, qu'on écoutait dans le générique, du nom de ce boxeur français qui a théâtralisé l'effet de contraste entre ses traits physiques, ses styles de jeu et ceux de ses adversaires.
Oui, dans l'Antiquité, donc effectivement, il y a une homogénéité physique qui est plus grande des athlètes qui s'adonnent à la boxe, puisque en l'absence de catégorie de poids, les boxeurs sont tous des lourds. Et d'ailleurs, on parle de sport lourd. La grande classification qui distingue entre les disciplines sportives antiques, c'est celle qui sépare les sports légers, c'est-à-dire les courses, et puis les épreuves assimilables à des courses, le saut en longueur, le lancer du javelot, etc. Et puis les sports lourds, c'est-à-dire les sports de combat, lutte, boxe et pancras. Et donc, en l'absence de catégorie de poids, eh bien, il faut avoir des prédispositions génétiques et puis une capacité à prendre de la masse pour pouvoir affronter des adversaires qui ont des gabarits en général extrêmement massifs.
Alors, il faut manger de la viande, beaucoup de viande. Ça, c'est, il y a des régimes alimentaires. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a tant d'auteurs qui ont écrit sur la boxe dans l'Antiquité, des médecins, des philosophes. Ça, on est très surpris. Il y a beaucoup aussi de récits de combats. Et c'est un peu également une aventure documentaire, votre livre, qui montre comment on peut collecter une grande masse. Alors, d'images, on le pensait, mais de textes aussi.
Oui, il y a beaucoup de textes relatifs au sport et à la boxe en particulier, qui d'ailleurs sont pas nécessairement des textes favorables à la boxe, puisqu'une partie du monde savant était assez critique à la fois à l'égard des honneurs qui étaient accordés aux athlètes et des conséquences de la pratique des sports de combat. Les boxeurs et les pancratias étaient considérés comme des individus qui s'abîmaient beaucoup dans le cadre de leur pratique, et à ce titre-là, ils faisaient l'objet de critiques sous la plume des savants, qu'il s'agisse de philosophes, de médecins ou de poètes.
D'ailleurs, puisqu'on parlait de régime alimentaire et de viande, il y a un épigramme comique qui fait parler la statue de Théogénès de Thasos, hein, à Delphes, qui affirme qu'il a dévoré un bœuf de Méonie, hein, qui est une belle bête. Et cette statue, elle est à Delphes, justement, parce que Théogénès a été héroïsé. Mais alors, héroïsé, on va en parler de Rocky Balboa, de Mohamed Ali, on dit que ce sont des héros, mais là, c'est héros au sens grec, hein, c'est-à-dire qu'on leur voue des cultes avec des offrandes, avec des dédicaces, avec des rituels, longtemps après leur mort.
Absolument, on a un certain nombre d'athlètes qui ont été héroïsés, et à l'intérieur de ce groupe, des athlètes qui ont été héroïsés à l'échelle de l'Antiquité, on a une majorité de boxeurs. Le plus connu d'entre eux, c'est Théogénès de Thasos, qui a surtout l'intérêt d'être connu en histoire très longue, puisqu'il vécu au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, il est champion olympique à deux reprises, en 480 puis en 476, à la boxe puis au pancrace, et il va rester connu et célébré dans sa cité jusqu'à l'époque impériale, puisqu'on a des dédicaces religieuses relatives à Théogénès au 2e siècle après Jésus-Christ. Et donc il était un athlète qui a été héroïsé dans le cadre d'un culte guérisseur, c'est-à-dire que de même que les boxeurs étaient considérés comme les athlètes qui blessaient et endommageaient le plus leurs adversaires, de même, ceux d'entre eux qui étaient héroïsés étaient considérés de manière symétrique, si vous voulez, comme capable de guérir.
Paulin Ismar, bonjour.
Bonjour.
Mais c'est de ça dont vous allez nous parler, peut-être, de ces rapports entre la boxe, la guerre, le spectacle.
On l'a vu, hein. Enfin, vous en avez parlé. C'est un livre qui est à la fois, évidemment, très proche du corps des boxeurs, qui est très attentif à restituer très concrètement ce que c'était que la boxe antique. À la fois comme sport, mais aussi à certains moments comme spectacle. Et en même temps, c'est un livre qui pose des questions générales et vraiment importantes sur les sociétés antiques en général.
Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre. On écoute Claude Nougaro, 1968.
Boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, ô déesse de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher. Box, box, lui le vieux Kid Marin. Kid Marin, c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. Ô déesse de pierre, pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Box, 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 il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre bombardent le plexus. Box, box, l'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse. Box, il esquive mon swing. Kid Marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire voir qu'il est deux et champion. Box, quatre boules de cuir et soudain deux qui roulent répandant leur châtaigne dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. Quatre, cinq, six, sept, box. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve, et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains, Kid Marin vient me voir, ça ira mieux demain. Ô déesse de pierre, je prendrai ma revanche, et j'aurai ton sourire, boxe. Comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes poings. Même si dans les coins, box, box, j'y vois encore luire. Quatre boules de cuir. Quatre boules de cuir. Box, box.
Toujours en compagnie de l'historien Jean-Manuel Roubineau, auteur de « À point fermé, une histoire de la boxe antique » paru cette année au PUF, nous nous interrogeons sur cette déesse de pierre que chantait formidablement Claude Nougaro. Qu'est-ce que la pratique de la boxe, Paulin Ismar, révèle des rapports entre gloire, guerre, argent, spectacle, au cœur, au fond de la politique de la cité grecque dont Jean-Manuel Roubineau est aussi l'historien.
Oui, bah, vous parlez du spectacle. En fait, ça pose une question qui est aussi une question très contemporaine. Et quand vous dites que le livre est un livre en fait qui parle, qui est un livre d'histoire de la boxe, mais depuis la boxe antique, bah, il y a cette question quand même du rapport entre le sport ou la boxe comme sport et le spectacle. Et parce que disons qu'il y a un discours un peu convenu aujourd'hui qui consisterait à penser que la spectacularisation du sport serait un phénomène très très récent. Mmh. En réalité, c'est un phénomène ancien même dans l'histoire, je veux dire moderne du sport, qu'on peut sans doute dater de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, et en particulier autour de la boxe. Mais c'est une question qui traverse votre livre, Jean-Manuel Roubineau. Notamment quand vous expliquez qu'à un moment, alors je crois partir du début de l'époque impériale, bah, y a une boxe exhibition qui coexiste à côté d'une, enfin qui coexiste avec une boxe compétition, et il y a des spectacles de boxe qui existent à côté des concours de boxe.
Absolument. Il y a plusieurs manières de faire la boxe à l'époque impériale. À côté, donc, des concours classiques avec des épreuves en tournoi, si l'on veut, où les athlètes s'affrontent consécutivement jusqu'à ce qu'un vainqueur soit désigné. On a aussi, en parallèle, probablement pour des boxeurs et des athlètes de moindre niveau et de moindre qualité, la possibilité de se produire, soit dans le cadre de spectacles privés, soit dans le cadre de troupes de boxeurs qui s'affrontent un peu comme s'affronteraient des troupes de gladiateurs.
C'est ça, mais alors où passe la rupture entre la boxe et la gladiature ?
Alors c'est une question qui est complexe, c'est-à-dire qu'il y a une forme de contamination qui fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on voit qu'à partir, juste au tournant de l'ère chrétienne, probablement que le renforcement des gants et l'ajout des objets de métal est consécutif au modèle de la gladiature qui s'impose.
C'est ce que vous suggériez tout à l'heure, oui.
Et simultanément, ou dans l'autre sens, on voit dans les inscriptions relatives aux gladiateurs d'époque impériale que le vocabulaire normalement destiné à désigner les pugilistes et la boxe ce transfert est appliqué à des gladiateurs. Et on peut avoir des épitaphes de gladiateurs qui les désignent comme des boxeurs dans la langue grecque.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, si on fait le lien avec aujourd'hui, comme vous nous y invitez, Paulin Ismar, c'est que bah, aujourd'hui, finalement, les boxeurs, seulement vêtus de leurs shorts, sont les sportifs qui sont le plus près de l'idéal de nudité grecque. Et donc ça a à voir aussi avec le héros et le guerrier.
Oui, absolument. Et il y a des grandes figures, enfin on va en parler je pense avec Loïc Artiaga, évidemment, des grandes figures de boxeurs modernes qu'on a envie de faire dialoguer avec ces figures héroïques des boxeurs antiques, bien sûr. Alors une autre question que je voulais vous poser, il me semble que votre livre c'est aussi un livre sur qui réfléchit sur ce qu'est la violence dans le monde antique. Et à plusieurs reprises, il s'agit pour vous aussi d'inscrire la violence du pugilat au sein d'un spectre plus large d'activités, la guerre, le sacrifice. Et on voit bien quand même dans certains vases que vous nous donnez à voir dans le livre que parfois les peintres de ces vases pensent ensemble, d'une façon un peu de la même façon, le sang du boxeur et le sang aussi de l'animal sacrifié.
Jean-Manuel Roubineau.
Oui, il y a effectivement ces trois registres, sacrifice, boxe, guerre, qui sont d'une certaine manière les trois manières de faire saigner un être vivant. Alors dans la perspective grecque et romaine, la boxe est pensée comme un avatar de la guerre, une version édulcorée de la guerre, dans le sens où la mort n'est pas le point d'arrivée normal des combats de boxe, alors qu'elle est le point d'arrivée normal des affrontements militaires. Et on le voit bien à travers l'inventaire des cas d'athlètes morts au stade parvenus jusqu'à nous, qui est extrêmement réduit. On a en tout et pour tout, pour l'ensemble de l'Antiquité, si on additionne les cas de lutteurs, de boxeurs et de pancratiastes morts au stade, on a 8 cas parvenus jusqu'à nous, et la moitié de ces cas sont constitués par des boxeurs. Autrement dit, la différence fondamentale entre la boxe et la guerre, c'est malgré tout qu'à la boxe, on ne meurt pas.
Bah, vous entendez cette musique, vous la reconnaissez forcément, hein? Les gars, ben oui. Eye of Tiger. Bah oui. Ah, vous l'entendez pas dans le studio. Bah, c'est Rocky qui a été interprété par Sylvester Stallone et qui parle de manière assez spectaculaire à son fils. Écoutez-le.
Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. T'es sûr de ce que tu veux. Faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça.
Loïc Artiaga, bonjour.
Bonjour Patrick Boucheron.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Limoges, spécialiste de l'histoire des cultures populaires. Vous venez de publier avec Mathieu Letourneau « Aux origines de la pop culture, à la découverte » et vous venez aussi d'obtenir le prix Augustin Thierry pour votre livre « Rocky, la revanche rêvée des Blancs » paru l'année dernière aux Prairies Ordinaires. Alors, on en a entendu un extrait. Rocky, c'est pas vraiment un chef-d'œuvre du cinéma, hein. Son succès en 1976 surprend toute la profession. Mais enfin, il vise juste et fort. Qu'est-ce qu'il vise? Pour vous, historien, qu'est-ce que ça révèle, ce que vous appelez cette œuvre-monde?
En fait, je pense que ce qu'il vise en 76, quand le film a du succès, et ce que la saga finit par être après 4 décennies d'un cycle relativement long, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, en 76, il réactive une tradition cinématographique qui va chercher chez les boxeurs, il y a ça chez Robert Wise, par exemple, en 1949, un modèle moral, quoi. Mm-hmm. Le gars qui en prend plein la figure et qui va quand même se relever et qui va pouvoir être un modèle, et en 76, c'est un modèle pour les pauvres petits blancs, hein. C'est le fantasme du blanc comme outsider et qui réussit quand même à faire son affaire.
Parce qu'il est lourd, parce qu'il est lent, parce qu'au fond, il n'a aucun talent au départ, Rocky Balboa.
C'est plutôt un mauvais boxeur, ouais. Et en ce sens, c'est un anti-Ali, qui est le grand boxeur de l'époque, mais dont la culture médiatique va travailler à effacer une partie des traces. Et Hollywood réussit à proposer finalement une alternative à la réalité, une alternative à Ali, avec un héros cette fois-ci blanc, italo-américain, effectivement, plutôt sans talent, plutôt peu volubile, mais qui réussit pour Hollywood à devenir le champion du monde.
Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une biographie, on l'a compris, fictionnelle, hein, qui décrit un monde vieillissant, un monde qu'on a trop vu, écrivez-vous. Et c'est aussi une manière de saisir la fiction, je vous cite, comme occultation. Parce que ce que Rocky occulte, c'est Mohamed Ali, et le champion, d'ailleurs, ne s'y est pas trompé, qui est en 1977, sur la scène des Oscars, dit à Stallone, tu m'as volé mon histoire. Donc, si aujourd'hui Rocky, d'une certaine manière, est toujours efficace dans l'Amérique post-Trump, c'est pour ça, non? C'est parce que c'est celui qui a terrassé non seulement les Soviétiques, mais aussi les Noirs.
Ouais, il a fait fraction dans le réel, en fait. Et il y a une sorte de compétition mémorielle entre des boxeurs qui ont été des grands champions de l'époque. C'est pas simplement Ali, mais il y a des boxeurs comme Larry Holmes qui sont de grands champions et qui sont champions en même temps, finalement, que Rocky Balboa l'est pour le cinéma, et qui n'ont pas réussi à entretenir, finalement, la même place dans la mémoire collective. C'est assez fort, finalement, comme intrusion. Et les films qui vont se succéder dans la saga, à partir du moment où il est plus tout à fait crédible de voir Stallone triompher sur un ring, vont s'employer à entretenir la mémoire d'un passé qui n'est pas advenu. Et en fait, depuis les années 90, le cycle se continue encore aujourd'hui, les films ne cessent de ressasser ce passé qui n'est pas arrivé, sauf sur les écrans, pour le plus grand bonheur des spectateurs.
Vous avez lu le livre de Jean-Manuel Rubino, Loïc?
Ortega ?
Oui, j'ai lu ce livre, je l'ai dévoré, et je suis très heureux de voir que nous avons des points de contact. En fait, il y a un autre emploi des matchs des années 60, 70, 80 que nous faisons de part et d'autre de la chronologie. On parle finalement souvent des mêmes matchs.
Jean-Manuel Rubino.
Oui, alors j'ai également lu le livre de Loïc Arteaga et j'ai pris beaucoup de plaisir à cette lecture et j'ai été particulièrement fasciné par la manière dont il fait apparaître les tensions dans chacun des duels, les tensions Rocky-Apollo Creed, la tension Rocky-Clubber Lang, la tension Rocky-Ivan Drago, qu'on appelle souvent sociologie du sport, donc précisément cet effet Carpentier qui vise à maximiser le caractère dramatique des combats en augmentant autant que possible, en étirant autant que possible l'écart entre les combattants, qu'il s'agisse d'un écart ethnique, d'un écart de taille, d'un écart de palmarès, d'un écart d'origine culturelle, etc. Et je trouve que le livre restitue très très bien, au-delà de son propos principal aussi, ces éléments-là.
Paulin Ismar, si un historien du futur, pour qui notre présent serait l'Antiquité, hein, vous me suivez, rencontrait l'histoire de Rocky Balboa, donc à la fin du 20e siècle, c'était des Italo-Américains qui dominaient le sport américain. Il n'y avait pas de Noirs, il n'y avait pas de problème dans cette Amérique virile. C'est intéressant quand même du point de vue de la méthode. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de temps en temps cet écart entre les athlètes héroïsés dans l'Antiquité grecque et ceux qui ont vraiment gagné ? C'est pas toujours les mêmes.
Oui, bien sûr. Et Loïc Arteaga montre bien que, en même temps, Rocky ne peut advenir que dans un moment assez particulier. C'est-à-dire que c'est fin des années 70, début des années 80. Et je crois qu'au début du livre, dites-moi si je me trompe, mais vous expliquez que c'est entre Mohamed Ali et Mike Tyson. C'est dans cet espace-là.
Il y a un espace, en fait, à ce moment-là, qui se crée. Finalement, Hollywood réussit à créer cette figure parce que, dans le réel, ça tangue d'une certaine manière. C'est la fin de la domination de Mohamed Ali. On n'est pas encore au temps où Tyson advient. Et finalement, Rocky prend place de manière très fine entre les deux grands boxeurs de la fin du XXe siècle. C'est un coup qui est très réussi et c'est aussi pour ça que cette effraction s'arrête finalement après les films du milieu des années 80 où Tyson est devenu Rocky n'est plus possible et n'est plus crédible et donc la saga devient autre chose.
Bon,
et puis, sinon elle meurt.
Il y a aussi autre chose qui relie vos deux livres, Loïc Arteaga et Jean-Manuel Rubino, c'est quand même le portrait social de ces boxeurs qui alors sont d'une certaine manière, je ne sais pas si on peut le dire ça pour l'Antiquité grecque, mais quelque part dans la classe moyenne et qui s'arrache à leurs conditions par le noble art. J'avais envie de vous faire entendre un extrait de la série documentaire « Boxe, la revanche des opprimés » de Michel Pomared et Jean-Philippe Navarre, disponible en podcast sur le site de France Culture. On y entend Manu, entraîneur à l'Avia Club d'ici les Moulineaux.
Oui, c'est pour échapper à l'endroit d'où on vient. Ça, c'est sûr. C'est ce boxeur-là. Récemment, je lisais une interview de ce boxeur de la Nouvelle-Orléans. On lui disait « Est-ce que votre fils va devenir boxeur ?» Et il avait répondu « Non, moi, je me suis sorti d'où je viens pour lui, c'est pas pour l'y ramener. » Et on devient boxeur, oui, pour échapper à son milieu, échapper à sa condition sociale, et peut-être pour ritualiser une certaine violence que l'on ressent et la rendre légitime. Beaucoup de boxeurs disent eux-mêmes, pour être boxeur, faut être un peu cinglé. Et on monte sur un ring, on est sûr qu'on va prendre des coups, quel que soit le niveau de l'adversaire. C'est très compliqué, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on choisit la boxe, mais même la somme de ces raisons ne suffit pas à l'expliquer.
Jean-Manuel Rubino.
Oui, alors c'est peut-être la grande différence, ou une des différences principales entre la boxe moderne et la boxe antique, c'est que la boxe moderne est souvent pensée, parfois même à outrance, comme un outil de rédemption sociale. Et donc il y a une description sociologique des boxeurs et de leur, milieu d'origine qui marque très très fort les origines populaires. On retrouve pas véritablement ce constat appliqué à la boxe antique, où tous les profils sociaux existent. S'il y a un écart à faire entre les athlètes, ce n'est pas entre les boxeurs et les autres, ce serait plutôt entre ceux qui se livrent au concours gymnique, donc les athlètes à proprement parler, et puis ceux qui chevauchent un cheval ou qui dirigent ou qui commanditent un char dans une compétition hippique. Autrement dit, cette fracture sociale qui est très présente dans les représentations de la boxe moderne et en partie dans la réalité, elle ne se vérifie pas du tout dans la boxe antique.
Paulin Ismar, est-ce qu'elle se vérifie tant que ça dans la boxe contemporaine? C'est un mythe aussi, je veux dire. Je pense par exemple au livre que Loïc Vacan avait consacré après un long travail ethnographique magnifique au milieu de la boxe dans la banlieue sud de Chicago. Il montrait bien qu'en fait les boxeurs professionnels, c'était souvent la frange supérieure en fait de la population du ghetto. Ceux souvent dont les parents avaient un emploi stable. Voilà, c'est pas les plus déshérités en fait.
Non, ça n'a jamais été les plus déshérités. Effectivement, il montre ça très bien dans son livre, c'est-à-dire qu'il faut avoir une forme de régularité de vie, en général, qui est issue d'une éducation familiale, pour pouvoir affronter l'ensemble de la charge que représente une vie de boxeur.
Loïc Artiaga, évidemment, votre livre, il convoque aussi toute cette tradition sociologique sur la boxe, et notamment des travaux fondamentaux de Loïc Vacan.
Oui, et Rocky en fait peut s'émanciper lui de cette réalité parce que précisément il est fabriqué. Et c'est vrai que Vacan raconte très bien hein, comment sont finalement les franges supérieures des classes dominées qui réussissent à s'en sortir. Rocky il aura une trajectoire intéressante finalement, il s'arrache de son milieu, mais c'est pour mieux y revenir et pour renouer vers la fin du cycle avec une lecture qui se veut une lecture sociale de l'Amérique contemporaine.
Jean-Manuel Roubineau.
Oui, j'avais une question à poser à Loïc Artiaga, si c'est autorisé.
Allez-y.
Je dirais que si on imaginait le profil idéal d'un boxeur, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui combine de l'endurance, de la force, de la vaillance et de la technique. Et je me suis toujours dit que Rocky, finalement, est toujours considéré comme un très mauvais boxeur, mais d'une certaine manière, il coche 3 des 4 cases, l'endurance, la force et la vaillance. Et donc j'en viens à ma question qui était, est-ce que les Rocky, c'est pas aussi une forme de discours hostile à la technique, à la technicité, à la technologie? Est-ce que d'une certaine manière, à travers les Rocky, c'est pas aussi un discours des classes populaires américaines d'hostilité à l'égard d'une société qui se technicise?
Loïc Artiaga.
Je l'avais pas vu comme ça. C'est une très bonne question. Alors c'est vrai qu'il est endurant, c'est vrai qu'il est fort, c'est vrai qu'il est vaillant. Mais moi, à chaque fois que j'ai discuté avec des boxeurs, tous ont pointé une technique plus que défaillante en fait de Rocky Balboa. Mm. Finalement, le discours qui revient à chaque fois, c'est mais non, on peut pas y croire, mais parce que c'est autre chose en fait qui doit être montré à l'écran et moins la finesse de la technique que la force de l'engagement, la force morale en fait qu'il y a aussi derrière l'engagement du personnage. Donc je sais pas s'il y a d'ailleurs des fictions qui techniquement sont très très justes quand elles montrent la boxe, parce que c'est sans doute pas ça que Hollywood a intérêt à montrer quand il filme le sport.
Les garçons, nous étions un peu en non-mixité hein, aujourd'hui, j'en suis navré, mais au fond, la grande écrivaine Joyce Carol Oates le disait bien, la boxe est pour les hommes, à propos des hommes, la boxe c'est les hommes. Écoutons-la, c'est un extrait de son livre sur la boxe.
Il n'y a rien de fondamentalement ludique dans la boxe, rien qui semble relever de la lumière du jour, du plaisir. Dans ces moments de plus grande intensité, elle paraît contenir une image si complète et si puissante de la vie, de la beauté, de la vulnérabilité, du désespoir, du courage sans limite et souvent autodestructeur de la vie, que la boxe, c'est en fait bien la vie et qu'elle est loin d'être un simple sport. Lors d'un combat de qualité supérieure, nous sommes profondément émus par la communion du corps avec lui-même grâce à la chair intransigeante d'un autre corps. Le dialogue du corps avec son autre lui-même, ou la mort. Le baseball, notre football, le basket, ces passe-temps essentiellement américains, sont reconnus comme sports en raison de leur dimension ludique. Ce sont des jeux. On joue au football, on ne joue pas à la boxe.
On On ne joue pas à la boxe, hein, Jean-Manuel Rubineau. Ça, à vous lire, non. On le comprend.
Oui, la dimension ludique est souvent assez absente, en tout cas de l'entraînement et souvent des affrontements, du point de vue des athlètes. Du point de vue des spectateurs, il y a une dimension au divertissement qui est très claire.
Mais on peut jouer Loïc Artiaga en historien à faire la biographie d'un personnage de fiction. Et ça, évidemment, ça nous amène à imaginer un autre monde.
Oui, ça amène à imaginer un autre monde et ça pousse aussi à voir autrement les fictions de grande consommation. On peut imaginer des biographies d'autres figures. Moi, je serais très heureux que d'autres prennent le relais et imaginent, par exemple, une biographie d'Indiana Jones, de l'inspecteur Derrick, une biographie du capitaine Haddock. Enfin, il y a vraiment des territoires que nous avons délaissés. Ces œuvres mondes, elles sont des mondes. Si on considère que ces mondes sont des formes d'infrastructures qui nous traversent, il faut aussi que les historiens aient leur mot à dire, en fait, sur ces univers.
Merci Jean-Manuel Rubineau, merci Loïc Artiaga, merci Paulin Ismar.
Merci à vous.
Merci. Merci, au revoir.
Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Camille Mathy. À la technique aujourd'hui, Paola Collin. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques à la page de notre émission sur le site de France Inter. La semaine prochaine, La nuit n'a pas sommeil, avec Marine Beccarelli, autrice de Micro de nuit, histoire de la radio nocturne en France, et notre sociétaire du jour, Adila Benedjaizou. Très bon dimanche à toutes et à tous.